l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à foi 100.2.
Et c'est pas parce qu'il pleut qu'on a le cœur malheureux, non, au contraire, on est très heureux de vous retrouver pour ce présent ce midi. Bon appétit d'ailleurs si vous êtes à table, et puis bien sûr la plus grande prudence si vous êtes en voiture en train de nous écouter. Bonjour David Torchala.
Bonjour Philippe, oui, prudence, parce que...
Ça glisse.
Ça glisse.
David, on vous retrouve chaque lundi pour parler de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. On a vécu un 11 février magnifique avec du monde, même si effectivement il a plu aussi pour ce 11 février.
Mais la fête n'est pas finie.
Et la fête n'est pas finie, puisque vous allez nous parler maintenant, bien sûr, de la fête de Sainte Bernadette.
Et oui, elle sera célébrée exceptionnellement le 17 février, c'est-à-dire demain, et non le 18 comme c'est écrit sur le calendrier. Alors pourquoi ce changement? C'est parce que le 18 tombe cette année le mercredi des cendres, premier jour du carême, mais c'est une coïncidence qui n'en est pas tout à fait une.
Ah, vous savez faire durer le suspense. On aura bien sûr toutes les explications d'ici quelques instants. Puis tiens, vieillir le plus possible dans son domicile, il y a une structure qui aide les personnes âgées à essayer d'aménager au maximum. À la fois, ils vont regarder les travaux à faire, les artisans, les aides qu'on a le droit, ils essaient d'organiser tout ça. Ça s'appelle Domévie. On découvrira une agence qui s'est montée. Il y en a un peu partout dans toutes nos départements, à Tarbes, à Auch. Eh bien, on en parle d'ici quelques instants. Et puis, c'est quelqu'un que vous aimez bien qui sera l'invité de Mathias Terrier. C'est Anne Deslois qui sera l'invité.
Oui, Anne Deslois.
Voilà. Mais pour l'heure, on retrouve l'essentiel de l'actualité. On retrouve pour cela Lou Denville. Bonjour Lou.
La tempête Nil se souffle toujours sur la région. Les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège sont toujours placés en vigilance orange avalanche. Ce week-end, Vigicru a établi des records de crues généralisées de la Garonne. Vous pouvez suivre toutes les évolutions sur l'application ou le site internet. Des coupures d'électricité pourraient encore toucher certaines habitations et Enedis a établi un plan d'intervention d'urgence en cas de problème. Les inscriptions bénévoles pour la 41e campagne de collecte des Restos du Cœur sont ouvertes. Les 6, 7 et 8 mars, 120 points de collecte participeront à cette opération en Haute-Garonne. Le département attend au moins 500 bénévoles ponctuels cette année et vous pouvez vous joindre à eux via le site internet ad31.restoducœur.org. La région lance une campagne de recrutement de près de 300 conducteurs de car LIO en Occitanie. La région s'engage à financer à 100% la formation pour les personnes en reconversion professionnelle et les demandeurs d'emploi. Cette campagne est réalisée en partenariat avec la Fédération nationale des transports de voyageurs, l'Organisation des transports routiers européens et France Travail. Un carré santé service a ouvert ses portes à Villefranche-de-Rouergue. Ce nouvel espace intègre un centre de santé infirmier, des services à domicile, un centre d'audition, un centre de santé dentaire et une antenne de l'établissement d'hospitalisation à domicile. Pour les salariés, ces locaux neufs, fonctionnels et accessibles sont également synonymes de meilleures conditions de travail.
Merci beaucoup à vous, Lou Denville. Vous êtes étudiante à l'école de journalisme et de communication à Blagnac. On vous retrouvera tout à l'heure à 12h30 pour le journal régional. Et puis le retour de l'actualité, ce sera également à 13h. Cette fois-ci, on élargit, puisque ce sera le grand journal national et international de la rédaction française de Radio Vatican.
Présence dans la cité mariale, 96.
Voilà, vous nous en avez parlé il y a quelques instants. On va fêter, bien sûr, comme il se doit, Sainte Bernadette, puisque le 18 février, c'est Sainte Bernadette, mais vous nous expliquez qu'on va le fêter un jour avant.
Et oui, parce que le 18, tout simplement, c'est mercredi des cendres. Alors, eh bien oui, ça prime. Mais vous verrez qu'il y a quand même pas mal de liens entre le carême et les apparitions, puisque le 18 février, ça nous rappelle un moment très particulier des apparitions de 1858. C'est le jour de la troisième rencontre à la grotte. Pour la première fois, la dame parle à Bernadette. Alors, elle refuse de dire son nom. Elle refuse aussi de l'écrire, malgré la plume et l'encrier que Bernadette lui tend. Mais elle lui adresse cette promesse bouleversante. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Voilà une très grande phrase qui est fondatrice dans le message de Lourdes. Alors, nous sommes à ce moment-là au tout début du carême, parce que même en 1858, le 18 février était un jeudi, juste après le mercredi des cendres. Bon, là, on est un jour avant. Et donc, la promesse de la Vierge s'inscrit vraiment dans ce temps spirituel, d'espérance, de conversion qu'est le carême. Voilà, c'est ce qui explique aussi que le 18 février soit devenu en France et puis dans les pays francophones la date où l'on célèbre Bernadette comme citoyenne du ciel, j'ai envie de dire. Alors, il y a une autre date à retenir, c'est le 16 avril, ça correspond à sa naissance au ciel, puisqu'elle meurt à Nevers en 1879 à 35 ans, devenue religieuse chez les Sœurs de la Charité de Nevers. Vous voyez, d'ailleurs, le 16 avril, c'est en Italie, particulièrement en Espagne et dans d'autres pays, c'est le jour de la fête de la Sainte Bernadette. Donc, on a plusieurs occasions de la fêter. Elle sera canonisée, Bernadette, le 8 décembre 1933, non pas pour avoir vu la Sainte Vierge, mais vraiment pour la manière humble, fidèle et courageuse dont elle a répondu à cette grâce de cette apparition, à cette manière aussi d'être devenue religieuse. Alors, évidemment, c'est un temps où on fait mémoire de Bernadette à Lourdes, et puis le programme de demain sera particulièrement riche. Toute la journée, les reliques de Sainte Bernadette seront vénérées à la paroisse du Sacré-Cœur, donc c'est l'église qui se retrouve, l'église paroissiale au centre-ville de Lourdes. D'ailleurs, je me permets une petite parenthèse.
Mais je vous le permets.
Pardon, je ne vous ai pas demandé. mais comme vous me le permettez, je le fais. Ça va être l'occasion de voir le reliquaire de Bernadette. C'est une œuvre magnifique de l'orfèvre lyonnais Armand Caillat. C'est un grand orfèvre et il est fait de vermeil, il est incrusté de petites statues en ivoire. Elle représente d'un côté la Vierge Marie au rocher et de l'autre Bernadette Soubirous, un cierge à la main, sous l'apparition de la Vierge. Alors le reliquaire, évidemment, renferme des reliques, notamment une partie des côtes de la Sainte, et puis ces prélèvements, ils ont été réalisés au moment de l'exhumation de son corps en 1925, après sa béatification, mais l'intégralité de son corps est évidemment bien conservée au couvent Saint-Gildard de Nevers. Je referme la parenthèse pour ceux qui ont envie.
Mais c'était une belle parenthèse. Une
belle parenthèse, vous voyez. Oui. Et donc, effectivement, voilà l'occasion de vénérer les reliques et aussi de mieux apprécier cette magnifique pièce d'orfèvrerie. Mais bon, c'est pas le plus important. Ce qui est plus important, c'est quand même Bernadette. Et puis, au programme, demain à 10h, messe à la grotte des apparitions. On va donc se remémorer cette troisième apparition avec cette grande phrase. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Et 14h, il y aura une visite guidée sur les pas de Bernadette, sur tous les lieux de vie à travers la ville de Lourdes pour marcher sur ses traces. À 15h30, le chapelet à la grotte, on sera en direct avec une ferveur particulière pour Bernadette. Et puis, pour ceux qui peuvent être là, à 18h, la messe sera présidée à la paroisse, toujours du Sacré-Cœur de Lourdes, par Monseigneur Mika, en présence des reliques. Vous savez pourquoi, finalement, cette messe se fait à la paroisse? Parce que les Lourdais sont extrêmement fiers de Bernadette. Oui. Le 18 février, le 17, là, aujourd'hui, cette année, en l'occurrence, c'est vraiment la fête des Lourdais. Donc, à 20h30, ben, les Lourdais, les pèlerins, tout le monde, on sommes tous invités à se rassembler à l'entrée Saint-Michel pour une procession des reliques jusqu'à la grotte. Et comme ça, on pourra réciter le chapelet. J'ai encore une nouveauté.
Ah.
Est-ce que je peux la dire? Je demande l'autorisation aujourd'hui.
Oui, je vois. Pour les parenthèses, pour les nouveautés.
Parenthèses, nouveautés. Alors,
c'est le palais d'exposition.
Exactement. vous savez tout de toute façon. Ben oui, parce que le centre de ressources historiques du sanctuaire propose, c'est nouveau, une exposition inédite intitulée Bernadette, objet d'une vie, archive d'une sainte. Elle est présentée jusqu'au 18 février, mais j'entends déjà qu'on va pouvoir jouer les prolongations parce qu'elle il y a beaucoup de succès en tout cas, et puis les personnes sont très heureuses de la visiter. C'est une exposition qui propose un regard intime et historique sur Bernadette, avec des objets personnels, des documents d'état civil, d'ailleurs qui nous ont été prêtés par la municipalité, des broderies réalisées par Bernadette elle-même, des sculptures, des esquisses. Voilà, trois volets pour découvrir Bernadette, enfant de Lourdes, Bernadette face à l'apparition, et puis Bernadette devenue sainte. Donc ça se passe dans ce hall d'exposition qui est tout récent en fait, qui n'est pas encore très connu, mais qui gagne à l'être, juste au pied du chemin de croix du sanctuaire, voilà, près de la basilique de l'Immaculée Conception, un petit peu sur les hauteurs, voilà. Donc profitez-en parce que elle est ouverte donc jusqu'à mercredi 18 février. Bernadette, objet d'une vie, archive d'une sainte. C'est tout simple, tout modeste, mais c'est vraiment très touchant, et je pense que c'est à l'image d'elle-même, de Bernadette.
Et bien voilà, et très merci beaucoup. Belle exposition donc à voir. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée, mon cher David?
Ah ben non, c'est ouvert et chacun met
ce qu'il veut
et donne une offrande comme tout ce qui se propose au sanctuaire. Chacun D'accord. est libre de participer.
Très bien, voilà, c'est juste donc effectivement au départ du chemin de croix, en face de la basilique supérieure, comme on dit, l'Immaculée Conception. Merci beaucoup David, vous en savez plein de choses. Vous nous avez fait découvrir aussi, et c'est vrai que c'est beau, cette fête, c'est une grande ferveur. Les Bigourdans l'aiment bien, Bernadette.
Ah, ils sont fiers, ouais. Les Bigourdans, ouais, de porter le reliquaire en procession. Voilà, vraiment, c'est une très belle fête. On lui doit beaucoup, à Bernadette. Vous savez, si elle n'avait rien dit, moi je me dis toujours ça, si finalement Bernadette avait gardé tout ça pour elle, eh ben, mon cher Philippe, on serait pas là, on serait même pas à l'antenne avec nos auditeurs depuis Radio Lourdes.
Et je pense, oui, elle a, qu'on soit croyant ou pas, toujours, elle a changé le destin de cette ville, le destin de ce département et de cette région, et un peu aussi le destin de l'Église, puisque aujourd'hui on voit que beaucoup de gens viennent du monde entier venir ici se recueillir, et quand on voit un rocher qui est poli par les caresses des gens, c'est quand même extraordinaire.
Ah oui, donc voilà, c'est se dire que le ciel aussi est tout, ouais, poli avec tous les saints qui l'habitent.
Merci beaucoup David, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, je serai là,
promis. Vous avez eu peur.
Oui, non, mais j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine. Ben non, je suis pas là, semaine prochaine d'ailleurs, je suis en vacances.
Vous êtes en vacances, vous en avez, ouais, bien besoin.
C'est vrai, je suis pas. C'est pour ça que j'avais un petit bug. Non, dans 15 jours, promis. Mais la semaine prochaine, je me repose.
Eh bien, reposez-vous. Vous en avez bien besoin. Merci beaucoup, David. Et puis, à très bientôt. Bonnes vacances. Et bonne fête de Sainte Bernadette. Donc, ça sera demain. Attention, c'est pas le 18, c'est bien le 17. Il n'y aura pas d'erreur.
Merci à tous.
Allez, je vous amène du côté des Pyrénées-Atlantiques de suite.
À Montauban, 93.3.
Près de 20% de la population âgée de 60 ans et plus vivent dans les Pyrénées-Atlantiques et font partie des territoires où le vieillissement s'accélère le plus. On va découvrir aujourd'hui, avec cette interview, une société qui s'appelle Domévie. Et j'ai le grand plaisir d'avoir Yann et Xavier d'Artigonave. Bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour.
Vous êtes tous les deux frères, c'est ça, si j'ai bien compris?
C'est ça, tout à fait.
Alors, on va partir à la découverte un peu de cette structure. Vous proposez quelque chose d'innovant. C'est que vous voulez accompagner les gens qui vieillissent et qui ont besoin d'une adaptation de leur domicile pour rester le plus longtemps à domicile. C'est ça, hein?
Oui, c'est ça, tout à fait. On accompagne du coup les personnes qui vieillissent, mais aussi les personnes à mobilité réduite.
Ah oui.
Voilà, notre but, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui sont dans le besoin pour adapter leur logement.
Alors, on va un peu décrypter comment ça se passe. Si moi, demain, par exemple, mes parents ont besoin d'adapter leur maison, je viens vers vous, et qu'est-ce que vous allez concrètement me proposer? Qu'est-ce que vous allez faire pour moi?
Alors, nous, on va venir chez vous et on va réaliser un diagnostic du logement. Donc, on va étudier toutes les pièces qui ont besoin d'être adaptées. Et on va proposer des aménagements sur mesure, allant de la douche sécurisée au monte-escalier, des barres d'appui, mais aussi tout ce qui est domotique. On fait également des salles de bain PMR et des élévateurs. Voilà ce qu'on va faire dans un premier temps sur la partie diagnostic, mais on fait aussi un accompagnement sur tout ce qui est financement, pour vraiment être référent de A à Z et pouvoir vous accompagner tout au long de l'adaptation du domicile.
Alors, vous allez accompagner donc ces personnes effectivement à faire ce diagnostic. Vous allez aussi leur conseiller, je pense, quelque part, de trouver donc aussi les aides qu'ils ont besoin et les artisans pour réaliser ces travaux. C'est pas vous qui le faites, hein.
Alors, Nous, on travaille avec des artisans locaux, effectivement. Donc, on gère tout ce qui est contact avec ces artisans, on est les référents, et c'est aussi la même chose sur la partie financement. On va chercher les aides ensemble, voir en fonction des situations des différentes personnes, ce au quoi elles ont droit, et les accompagner dans la rédaction de ces aides, dans toutes les démarches.
Donc toutes les démarches, c'est-à-dire bah, vous allez chercher quoi, des aides au département, à l'État,
ouais,
à la commune, c'est ça?
Exactement. C'est ça. On fait le tour de tout le monde pour pouvoir vraiment aller aider au mieux le financement de ces projets pour les personnes.
Alors une fois que donc vous avez fait ce diagnostic, que vous avez vu les personnes, vous avez vu les aides qu'elles ont, vous allez pouvoir passer à la phase suivante, c'est-à-dire que les artisans vont venir, ils vont chiffrer tout ça, vous allez voir si effectivement aussi les artisans ou les personnes n'exagèrent pas dans les prix, hein.
Alors en fait nous on coordonne tout,
d'accord.
Donc on réalise ce chiffrage aussi, c'est nous qui réalisons l'ensemble de ce chiffrage. Sur les différents chantiers.
D'accord. Alors, du coup, alors, pour bien comprendre, la personne, elle vous règle à vous et vous réglez les artisans ou chaque artisan est réglé par la personne?
Oui, alors, si vous voulez, nous, on s'occupe de réunir les devis de tous les artisans avec qui on travaille et c'est nous qui présentons ces devis-là au client. C'est nous qui facturons. Le client, lui, il a un seul intermédiaire.
On s'occupe
aussi de coordonner tous les travaux et de venir vérifier que tout se passe bien.
D'accord. Vous êtes un guichet unique, absolument, quelque part?
Alors, on n'est pas guichet unique. Hein. Nous, le guichet unique de chez France Rénov', notamment, ils ont leur propre partie. Mais nous, en fait, on s'occupe de mettre en lien tous les différents corps d'État et tous les différents les intervenants. Quoi. Voilà.
Du coup, vous mettez aussi en relation peut-être avec la famille, si y a la famille. Donc, vous vous rendez bien sur place, vous faites bien les expertises, et puis vous faites peut-être des plans, des devis. Puis après, une fois que c'est accepté, on peut passer à la phase, donc, regarder sur les aides qu'ils ont droit, et le reste à payer, c'est ça, le reste à charge.
Voilà, en fait, si vous voulez, donc nous, il arrive souvent qu'on ait affaire aux enfants ou aux petits-enfants, hein. Parce que c'est vrai que des fois les personnes âgées ont un peu du mal avec notamment ce qui concerne l'informatique et on sait qu'aujourd'hui que 100% des démarches elles se font informatiquement, donc il nous arrive très très souvent d'être en contact avec les différents membres de la famille. Une fois que les devis sont établis, les devis sont, si jamais ces gens peuvent bénéficier notamment du dispositif MaPrimeAdapt, les devis sont envoyés à travers différentes plateformes et sont contrôlés même par l'État, ce qui nous permet nous aussi de mettre en œuvre différentes les travaux avec différentes préconisations, notamment des préconisations d'ergothérapeutes. Et ces préconisations-là, elles sont contrôlées par des organismes de l'État, que ce soit au niveau de la faisabilité et y compris au niveau des devis du prix des devis des travaux qui sont vendus.
Oui, d'accord, oui. Il y a vraiment...
Ce qui amène une sécurité au niveau des clients, parce que c'est quand même bordé et contrôlé.
C'est vrai qu'on a des fois un petit peu peur, hein, quand on a vu les écarts qu'on a pu avoir, par exemple, sur l'isolation, avec les primes de l'État, mais souvent, il y avait des arnaques derrière. Là, c'est vrai que vous bordez tout ça, hein.
Alors nous, clairement, après, donc, on va avoir deux modes d'intervention. Soit on va intervenir avant des ergothérapeutes, donc on intervient, on fait nos propres préconisations et ces préconisations sont contrôlées par les services de l'État qui eux-mêmes ont des ergothérapeutes. Ou sinon, eh bien, on passe après des ergothérapeutes, donc le devis que l'on va mettre en place va correspondre aux préconisations des ergothérapeutes, que ce soit sur des mises en place de WC surélevés, sur des barres de maintien, sur des élargissements de portes aussi pour que les personnes puissent passer avec leur fauteuil roulant. Tout ça, nous, on intervient après préconisation d'un ergothérapeute et c'est notre devis est recontrôlé. Donc c'est vrai que c'est ultra rassurant pour le client.
Oui, ultra rassurant. Alors on peut vous trouver un peu partout, hein, dans tous les départements. Là, on est bien sûr, votre agence se trouve en Gaïs, on l'a dit tout à l'heure, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et il y a des agences Domévie dans chaque, pratiquement dans chaque département. Vous me disiez que dans les Hautes-Pyrénées, il y en avait un. Dans le Gers aussi?
Voilà, aujourd'hui, Domévi, c'est près de 70 agences. Donc, nous, nous sommes aujourd'hui sur Rangaïs. J'en profite justement que vous parliez de la du placement de notre agence. On va ouvrir un showroom à Sercassette le mois prochain pour que les gens, justement, puissent venir se rendre compte des différentes installations que l'on peut proposer, que ce soit des douches, des montes-escaliers. Donc, en plus, nous, de notre agence à Sercassette, effectivement, vous avez une agence à Tarbes avec Sonia et Stéphane. On parlait du Gers aussi, c'est Yannick qui est dans le Gers. Et aujourd'hui, on couvre vraiment tout le territoire. Je sais même qu'il y a une agence qui va s'ouvrir le mois prochain sur Bayonne.
Sur Bayonne, sur le Pays Basque. D'accord.
Voilà. Alors aujourd'hui, nous, on est tous des indépendants, mais on s'appuie du réseau Domévi qui nous permet justement d'avoir accès à toutes ces informations, à tous ces produits qui nous permettent de réaliser et de répondre à toutes ces demandes.
Quelles sont peut-être les demandes qui reviennent le plus? Qu'est-ce qui revient dans l'adaptation d'un logement? C'est quoi? C'est souvent la douche? C'est les sanitaires? C'est quoi?
Oui, clairement aujourd'hui, la pièce où il y a le plus d'accidents, c'est la salle de bain. Oui. Il y a quand même plus de 2 millions de personnes de plus de 65 ans qui chutent chaque année. Les principales chutes, elles se passent dans la salle de bain, lorsqu'ils doivent enjamber leur baignoire notamment ou sortir de leur baignoire. Les baignoires, c'est des éléments sanitaires qui glissent énormément. Donc nous, notre 70% de notre métier, c'est de la transformation de salle de bain. On enlève les baignoires pour mettre des receveurs antidérapants, des sièges de douche, des barres d'appui.
D'accord. Ouais, et vous accompagnez ça. Alors c'est vrai que des fois on a peur de rentrer dans des travaux sur des maisons peut-être qui sont âgées, des maisons vieilles. Mais vous rassurez, c'est quand même un plus pour une personne si elle peut rester à domicile. Hein.
Alors c'est un plus pour la personne parce que elle va pouvoir se doucher en toute sécurité, mais c'est aussi un plus lorsqu'il y a des aidants. Nous, lorsqu'on réalise nos études, on prend en compte et les difficultés de la personne, mais aussi les difficultés des aidants qui vont venir aider ces personnes âgées ou ces personnes à mobilité réduite à se doucher.
D'accord. Ah oui, effectivement.
Vraiment en compte tout l'environnement. Hein.
Voilà, donc si on veut avoir des conseils, si on veut rentrer en contact avec vous, parce que, vous l'avez dit, hein, la population, elle vieillit et il faut l'accompagner dans ce vieillissement, on peut venir vous voir. Vous êtes donc aux 4 rues de la Plaine, à Angaïs, hein, dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous avez donné, il suffit de taper DOM et VIE, DOM et 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 VIE, bien sûr, et on recherche sur le moteur de recherche et on arrive à trouver les adresses des départements pour les gens qui nous écoutent dans notre région. Hein.
Oui, tout à fait. Alors nous recevrons avec plaisir. Nous nous déplaçons aussi à domicile, hein. C'est même 99% du temps, c'est plutôt nous qui venons à domicile pour voir ce qu'il y a à faire exactement. Et à partir du 2 mars, nous serons donc par contre aux 4 impasses du Muguet à Sercassette. Voilà.
4 places.
Et là, les gens pourront venir nous voir dans nos bureaux. On ouvre des nouveaux bureaux à Sercassette.
Très bien. Et si on veut rentrer en contact par téléphone pour avoir plus de renseignements, comment on peut faire?
Alors, donc les gens peuvent nous appeler. Donc nous sommes deux, Yann et Xavier. Donc Yann, mon numéro c'est le 06 23 94 50 97.
Et Yann, c'est le 06 05 20 93 97.
Voilà, je vais répéter ces numéros. 06 23 94 50 97 et 06 05 20 93 97. On aura un des deux frangins, c'est ça, hein?
Exactement.
Un grand merci à tous les deux. Bien sûr, on pourrait parler plus longuement, hein, mais on a compris vraiment votre dispositif qui est unique et qui est plutôt bien, hein, et qui est plus rassurant à la fois pour les personnes âgées, mais également pour la famille. Vous avez dit les enfants, les petits-enfants, les aidants. Si on veut avoir une vraie expertise, un coût des travaux qui est contrôlé, et si on veut savoir aussi à quelles sont les aides qu'on a droit, eh bien, on vient vous voir, on vous appelle, vous venez à domicile, hein, si je résume, vous faites une expertise, et puis vous dites ce qui a lieu de faire, hein, c'est ça, hein?
Oui, voilà, tout à fait. Alors nous, il faut aussi savoir que cette visite, elle est totalement gratuite. Ça n'engendre aucun coût et on s'occupe effectivement de vous donner des infos sur toutes les aides qui sont disponibles. D'accord. En fonction de l'endroit où vous situez et on vous fera un devis. On a aussi un logiciel qui nous permet de faire des plans 3D. Donc ça nous permet d'avoir un rendu aussi photographique à la sortie du rendez-vous. On sait à quoi va ressembler notre salle de bain dès lors que les travaux seront effectués.
D'accord, eh bien, écoutez, ben voilà, si vous voulez pas, parce que c'est compliqué de trouver des artisans, de s'occuper de tout ça, de la paperasse, et puis du suivi des travaux, eh bien voilà, on vient vous voir, Dom et Vie, Yann et Xavier d'Artigenave. Donc on vient voir à votre rencontre, je rappelle vos numéros, 06 23 94 20 97. Ou bien le 50-97, oui, pardon. Oui. Et 06-05-20-93-97. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Bon courage à vous. Et puis, eh bien, j'espère que le téléphone va sonner et que vous allez pouvoir aider des personnes donc, à pouvoir rester au moins au maximum le maintien à domicile chez eux, là où ils sont peut-être le mieux.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Allez, on poursuit avec l'actualité de notre région. Et pour cela, nous retrouvons Lou Denville de l'école de journalisme de Blagnac. École de journalisme et de communication. Rebonjour Lou.
La tempête Nils a compliqué le week-end de certains habitants dans la région. Les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège sont toujours placés en vigilance avalanche. Samedi, des villages en bord de Garonne se sont retrouvés complètement isolés face à la montée rapide des eaux. Vigicru a établi des records de crues généralisées. Vous pouvez suivre toutes les évolutions sur l'application ou le site internet. Des coupures d'électricité pourraient encore toucher certaines habitations. Enedis a établi un plan d'intervention d'urgence en cas de problème. Les inscriptions bénévoles pour la 41e campagne de collecte des Restos du Cœur sont ouvertes. Les 6, 7 et 8 mars, 120 points de collecte participeront à cette opération en Haute-Garonne. Les dons alimentaires restent la première source d'approvisionnement des restos aujourd'hui. Sur l'année 2024-2025, les Restos du Cœur ont distribué plus de 161 millions de repas et accueilli 1,3 million de personnes dans plus de 2000 lieux d'accueil. Le département attend, lui, au moins 500 bénévoles ponctuels cette année et vous pouvez vous joindre à eux via le site internet ad31.restoducœur.org. Pour rappel, l'association a également besoin de bénévoles dans deux entrepôts de Toulouse et de Capins pour le tri pendant et après la collecte. La région lance une campagne de recrutement de près de 300 conducteurs de cars LIO en Occitanie. La région s'engage à financer à 100% la formation pour les personnes en reconversion professionnelle et les demandeurs d'emploi. Cette campagne, en partenariat avec la Fédération nationale des transports de voyageurs, l'Organisation des transports routiers européens et France Travail, prévoit la mise en place d'un dispositif d'information, l'organisation de journées portes ouvertes au sein des entreprises de transport, la mise en avant de la profession au cours des salons TAF, ainsi que la reconduction du numéro vert unique régional 0800 706 707, permettant d'informer et d'orienter les candidats dans leur démarche. Actuellement, plus de 6000 conducteurs et conductrices de car interviennent sur les près de 5000 services scolaires et 300 lignes régulières du réseau LIO en Occitanie. Chaque année, la région transporte gratuitement près de 170 000 élèves de la maternelle au lycée. Un carré santé service a ouvert ses portes à Villefranche-de-Rouergue. Ce nouvel espace intègre un centre de santé infirmier, des services de soins infirmiers à domicile, des services à domicile, un centre d'audition écoutez-voir, un centre de santé dentaire et une antenne de l'établissement d'hospitalisation à domicile. Les travaux ont démarré début décembre 2025, notamment grâce à l'aide de l'État, via une subvention permettant de réhabiliter une friche commerciale dans le cadre du Fonds vert, Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. Au total, Altrian aura investi 1,3 million d'euros pour réaménager 760 mètres carrés, dont 660 pour ses activités, et 14 places de parking en sous-sol. Pour les salariés, ces locaux neufs, fonctionnels et accessibles sont également synonymes de meilleures conditions de travail.
Merci beaucoup, Lounouneville. Voilà pour le journal de la mi-journée. Le retour de l'actualité, ce sera tout à l'heure à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. C'est une amie de la radio que nous allons recevoir maintenant, puisqu'il s'agit d'Anne Deslois, qui est l'invité de Mathias Terrier dans le magazine De Passage à Lourdes.
Présence
De Passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Anne Deslois. Bonjour Anne.
Bonjour Mathias, bonjour à tous.
Avant de commencer cette émission, vous m'avez lancé cette phrase qui évidemment m'a frappé. Vous m'avez dit, j'ai failli mourir au début de l'année d'une infection au cœur, mais je suis encore là. Et vous m'avez dit ça avec un grand sourire. Si on reprend cette phrase, sans doute qu'on va entrer dans... Alors chronologiquement, pas du tout, mais dans des éléments de votre vie qui sont surprenants, édifiants, et on va aussi découvrir votre rapport à la souffrance, votre rapport à la joie de vivre, au Christ, à la foi. Vous m'avez dit cela parce que votre cœur est malade et même fatigué, Anne.
Oui, alors j'ai peut-être eu, ou encore maintenant, un bon cœur et gros cœur, mais effectivement, il y a quelques années, c'était en 2009, j'ai été terrassée par un œdème pulmonaire aigu. On se demandait bien d'où ça venait, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, j'étais hospitalisée d'urgence. À ce moment-là, je me trouvais en Alsace. Et on a découvert que j'avais la valve mitrale, donc une des valves cardiaques, qui ne fonctionnait plus bien. Et voilà, donc on m'a fait suivre par un cardiologue pendant quelques semaines. Et puis très vite, le cardiologue m'a envoyé pour me faire opérer auprès d'un chirurgien cardio-thoracique pour une opération à cœur ouvert. Pour
vous
changer.
J'ai subi deux opérations.
Alors deux, en fait. J'ai été opérée en fait en décembre 2009, une première fois de la valve mitrale et de la valve aortique, donc deux valves cardiaques. Maintenant, j'ai des valves mécaniques. J'avais 47 ans à cette époque-là. Et puis, 5-6 ans après, il a fallu faire une nouvelle opération par rapport à la valve aortique.
Anne, vous en parlez avec une distance qui est surprenante, parce que vous devriez être révoltée, en colère. Vous avez été prise dans ce scandale du Mediator. C'est
oui.
Ce médicament des laboratoires Servier
oui.
Qui a causé
tout à fait.
Les souffrances que vous vivez et le cœur déficient dans lequel oui. Que vous avez aujourd'hui.
Aujourd'hui, je peux en parler d'une façon très apaisée grâce à Irène Frachon, qui était donc, nos auditeurs s'en souviennent sans doute, cette lanceuse d'alerte qui a révélé le scandale du Mediator auprès des laboratoires Servier. Et donc, effectivement, moi, mon médecin traitant, quelques années avant que je fasse l'œdème pulmonaire, m'avait prescrit du Mediator parce que j'avais un diabète de type 2 qui commençait à arriver, donc on a voulu le stopper, enfin faire attention à tout ça. Mais il a peut-être été très bon pour le diabète, mais il m'a abîmé la valve cardiaque. Et ça, en 2009, personne n'en parlait. Par contre, le Mediator que je prenais, il m'a tout de suite été ôté, quoi. Et il se trouve qu'un jour, en novembre 2010, j'ai entendu Irène Frachon parler à l'Assemblée nationale de ce scandale du Mediator. Et à ce moment-là, quand elle parlait, mais je me disais, mais le Mediator, c'est ce que j'ai pris. Parce qu'elle, elle se rendait compte qu'il y avait beaucoup de ses patients. Elle s'occupe de tout ce qui est respiration, poumons, enfin, etc., pneumologue. Et elle voyait beaucoup de ses patients qui mouraient. Ou qui était atteinte de quelque chose, et elle a vu qu'avec le Mediator, c'était le phénomène commun à tous ces patients, la prise du Mediator. Et donc, elle s'est donnée à corps et à cri, sa famille l'a vraiment beaucoup soutenue. En fait, Irène Frachon, elle est à l'hôpital de Brest, elle est protestante de religion et de croyance, mais elle a aussi une famille avec elle qui la soutient à fond. Et donc, elle a mis un peu son métier entre parenthèses pour que les personnes victimes du Mediator soient vraiment reconnues. Alors bon, ça a mis des années, des années, des années. Mais c'est vrai que moi, c'est comme beaucoup de choses qui arrivent dans ma vie. J'en parle avec un peu un détachement parce que je crois que pour continuer à vivre, il ne faut pas s'accrocher aux difficultés que nous avons à vivre, à surmonter, on va dire, année après année, jour après jour, parfois, dans nos propres vies. Et je crois que ça, c'est le lot de tout le monde. Si on s'accroche trop à ce qui peut nous paraître négatif, eh bien, ça ne nous donne plus la capacité de vivre à fond et d'être tourné vers les autres. Donc, moi, j'ai cette force. C'est vrai que je viens d'une famille, j'ai été élevée dans une famille catholique, de parents engagés, et il y a toujours eu beaucoup d'amour entre nous tous. Enfin, j'ai deux sœurs aussi, on est une famille très unie, et je crois que très tôt, j'ai réalisé que la Providence, elle était à l'œuvre dans nos vies, quoi.
Mais cette joie de vivre, Anne, vous auriez pu même la perdre dès l'âge de 12 ans, lorsque votre papa meurt dans les atroces souffrances que conditionne une maladie de Charcot, parce qu'il a eu la maladie de Charcot.
Oui, il y a 50 ans, juste là, fin septembre.
On a 12 ans, son papa, vous êtes la troisième fille du couple qu'il forme avec votre maman. Oui. Ils s'aiment éperdument, oui. Un couple aimant et en plus croyant qui a ancré la vie de la famille dans la foi. Et votre papa meurt.
Et moi, moi comme mes sœurs d'ailleurs, on se rendait même pas compte que papa était malade. On voyait bien qu'il avait quelques difficultés depuis quelques mois, mais l'amour fait que on dépasse beaucoup de choses. Moi, je vais vous raconter une anecdote. C'est que je me souviens que papa, les dimanches matins, avant d'aller à l'église, on habitait pas loin d'Épinal, un petit village qui s'appelle Igné.
Dans les Vosges.
Et bon, à l'époque, il y avait encore une messe tous les dimanches matins dans ce village. Et moi, tout à fait normalement, papa mettait une chemise, mais il n'arrivait plus à boutonner sa chemise. Et moi, normalement, comme toutes les petites filles de 10, 11, 12 ans, je boutonnais la chemise de mon papa. Mais comme c'était un geste qui nous était donné à tous de faire, quoi. Je ne voyais rien d'anormal, mais ça voulait dire qu'il n'arrivait plus, vous voyez, avec ses doigts, avec la maladie qui le paralysait, à boutonner sa chemise. Et moi, j'ai fait ces gestes-là complètement. Et là, c'est là quand je fais ça avec, vous voyez, 50 ans après, et même plus. C'est quelque chose, je trouve qu'on a eu des relations, mes sœurs, ma maman et mon papa, quelque chose de très privilégié. Alors, la mort est arrivée.
Malgré la souffrance et malgré la maladie.
Oui, oui. On se demandait bien, à un moment qui était une bonne cuisinière, papa était toujours ravi de ses plats. À un moment donné, il lui a dit, mais comment, je ne comprends pas, Lucette, tes plats n'ont plus de goût. Mais en fait, c'était lui qui avait perdu le goût. Donc, il y a eu plein de petits signes, comme ça, on voyait qu'il y avait une transformation. Mais il ne voulait pas nous faire souffrir, même si lui, il se demandait bien ce qu'il avait, puisque même la médecine, les professeurs qu'il rencontrait au CHU de Nancy étaient incapables de mettre des mots sur cette maladie et comment ça allait finir. Hein, vous voyez, on a la maladie de Charcot, maintenant on en parle beaucoup, mais imaginez en 1974, c'était rare. Nous, on n'avait jamais entendu parler de cette maladie non plus. Et je ne sais pas, la maladie, du coup, a fait partie tout à fait normalement de notre existence, là, la fin de la vie de papa avec nous. Et il y a eu une autre vie. Voilà, il y a quelque chose de fort. Le Seigneur était vraiment aussi très présent dans tout ce qu'on vivait.
Qu'est-ce qui se fonde comme conviction et peut-être comme confiance pour l'avenir à ce moment-là dans la tête de cette petite fille que vous êtes ?
J'en ai pas toujours conscience, mais je me rends compte que déjà, grâce à notre vie spirituelle familiale, eh bien, il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a quelque chose, alors maintenant que je sais nommer, enfin depuis déjà longtemps peut-être, la Providence, mais je crois qu'effectivement la Providence veille, et elle est là, et elle nous fait faire des pas. Et donc très vite, je vous dis, à la mort de mon papa, je me souviens avoir dit, j'ai tel résultat, j'ai telle satisfaction que je voudrais partager à mes parents, mais papa est déjà au courant puisqu'il l'a vécu avec moi. En fait, je sentais, et je pense que ma mère et mes sœurs pourraient dire pareil, on a fait beaucoup de choses, on a senti en nous la présence de notre père. Et moi, je le visualisais, je me souviens, quand j'étais petite, vraiment à la droite de Dieu le Père, quoi, qui était là pour veiller sur nous.
Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de la femme de radio. Vous avez été directrice de radio, vous avez été attachée de presse, vous avez beaucoup voyagé. Mais peut-être qu'on reste ancré là, dans ces premières années fondatrices. Bon, il y a la petite fille qui perd son papa, maman qui élève ses trois enfants, seule.
Oui.
Il faut, j'imagine, quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance en l'avenir pour avancer malgré cela. Et puis vous nous dites que vous fondez très vite une confiance en vous-même, la place de la providence, la foi. Comment fait irruption dans votre tête l'envie d'être missionnaire? Parce que vous allez assez vite partir à Madagascar. Alors, quand vous êtes majeur, hein, oui. On passe quelques années là. Mais quand même, là aussi,
oui.
Faut avoir des audaces, faut le vouloir, que partir à des milliers de kilomètres de chez soi.
En fait, vers l'âge de 13-14 ans, donc peu de temps après le décès de mon père, j'étais sur un sanctuaire marial qui est à quelques kilomètres de Nancy, à 30 kilomètres, c'est Notre-Dame de Sion. J'étais là avec une de mes sœurs. Et maman, connaissant bien la communauté des Pères Oblats de Marie Immaculée, ils nous avaient demandé qu'on vienne leur donner un service pendant le temps des pèlerinages. Et étant sur ce site, j'ai été vraiment interpellée par une phrase qui était gravée là sur un monument de la paix, comme on dit. Tous, vous êtes frères. Et sur ce lieu religieux, ce lieu spirituel, j'avais fait connaissance avec un prêtre, donc des missionnaires Oblats Immaculés, comme on a aussi à Lourdes, les OMI. Lui, il rentrait du Cameroun, ce père. Et je me rendais compte que j'avais toujours besoin d'aller vers lui pour qu'il me raconte la vie qu'il avait là-bas, au Cameroun, la vie des enfants et des jeunes du Cameroun. Vous savez, on n'avait pas, c'était pas Internet, on n'avait pas toute, on va dire, même par les médias, la grande connaissance, mettons, on va dire, internationale ou universelle qu'on peut avoir maintenant. Donc moi, j'avais soif de connaître ce que vivaient des jeunes là-bas au Cameroun. Il me racontait. Et quand je suis rentrée à la maison après ce séjour sur ce lieu de un peu de vacances et de service au sanctuaire, j'ai dit à maman, tu sais maman, quand je serai grande, je pars comme missionnaire. Alors maman lui dit, mais Anne, tu as toujours des idées très généreuses, c'est formidable, mais avant, il faudra passer le bac,
il faudra faire des études.
Voilà.
Vous allez en faire d'ailleurs des études.
Oui, je vais en faire un petit peu. Voilà, mais c'est quelque chose qui m'a toujours, cette phrase, tous vous êtes frères, et ce désir de partir en coopération, missionnaire entre autres, me tenaillait. J'étais dans mes temps libres, même quand j'étais lycéenne, étudiante, j'avais souvent envie de participer à des sessions avec des missionnaires qui rentraient. Donc c'était souvent des missionnaires originaires de France qui rentraient pour un temps de congé. J'avais besoin de ce contact-là et de découvrir ma vocation, ma propre vocation de missionnaire, en fait. Je sentais qu'en tant que baptisée, j'étais moi aussi appelée à aller dire l'amour de Dieu pour tous, la tendresse de Dieu pour tous les hommes.
Vous passez le bac, vous faites des études de publicité, de marketing, et vous partez en mission à Madagascar.
Voilà, pour 2 ans, donc avec la délégation catholique pour la coopération, c'était en 84. Je me souviens, maman me conduit avec 2 amis à l'aéroport d'Orly, puisqu'on partait encore pour l'international depuis Orly à l'époque. Et je lui dis, allez, au revoir maman, à dans 2 ans. Parce que j'allais aller dans un village en brousse dans le nord de Madagascar où il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante, donc pas de téléphone. Et Internet n'existait pas encore. Donc, à dans 2 ans. Et me revla installée dans l'avion. Au moment du décollage, je me dis, mais Anne, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir partir? T'étais si bien ici en France, quoi. Et j'avais rien qui m'était négatif, quoi. Enfin, mais qu'est-ce que j'ai voulu? Partir complètement dans l'inconnu. Je vais aller vivre dans une communauté religieuse pour me mettre au service de la mission catholique d'un petit village qui s'appelle Béalan. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Et m'est venue cette phrase aussi de l'Évangile. Aie confiance, il t'appelle. Et là, de nouveau, je me suis dit, mais de toute façon, je n'y pars pas toute seule. Papa est là pour me donner de la force, quoi, et pour m'accompagner. Vous voyez.
Nous allons nous arrêter quelques instants, Anne. Nous nous retrouvons juste après la pause pour continuer à, comme ça, grappiller quelques éléments de votre vie. Là, on en reste à Madagascar, et puis on se retrouve juste après.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Présence. De passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Merci Anne Deloye de vous raconter un peu, de nous dévoiler quelques éléments de votre parcours. Alors si je devais repositionner là comme ça quelques étapes de votre vie, qui sont des étapes un peu structurantes, vous nous avez parlé assez longuement et avec beaucoup de profondeur du décès de votre papa, d'une maladie de Charcot, vous êtes issu d'une famille des Vosges, près d'Épinal. Vous grandissez dans le bonheur avec vos frères, vos sœurs, pardon. Oui. Vous avez des sœurs. Et puis ce décès brutal, vous avez de votre papa, vous avez 11 ans, 11 ou 12 ans.
12.
12 ans. Et ce désir, depuis toujours quasiment, de cette audace de la mission, vous nous l'évoquiez aussi, ce départ à Madagascar après vos études et l'arrivée à Madagascar où vous découvrez quand même, je pense, la pauvreté, la souffrance. Mmh. Là aussi, face à ces souffrances, ces pauvretés, alors même que vous-même, vous avez vécu aussi vos propres souffrances, vous réagissez comment ? Parce qu'on peut quand même se révolter, être blessé par ça.
En fait, quand j'arrive à Madagascar, vraiment dans les premiers jours, je découvre la richesse du peuple malgache. La richesse déjà par rapport à leur sens de l'accueil.
Oui.
Je sens qu'ils sont heureux de m'accueillir. J'habite dans une petite communauté avec des religieuses, moi en tant que laïque. Il y a une autre coopérante aussi, Monique, qui est à mes côtés, enfin qui est avec moi. Mais dans le village, à l'école, je sens que les gens m'accueillent volontiers. Je les fais rire. Bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être un peu clown, ou je ne sais pas. Il y a une relation facile qui s'installe entre à la fois les professeurs, les parents, les élèves, et puis d'autres gens dans le village. Et je me sens bien avec eux. Je vais même oser dire, je me sens mieux avec eux qu'au sein même de la communauté religieuse, qui était composée de religieuses françaises et de religieuses malgaches, où je sentais qu'il y avait des difficultés entre elles, il y avait quelque chose qui me gênait dans leur relation. Et donc j'avais soif, moi, d'être bien sûr un bon élément dans la vie communautaire, mais aussi nourrie par la relation que j'avais avec les gens de l'extérieur. Et voilà, j'ai pu raconter beaucoup de choses, je me suis vraiment enrichie de ce qu'ils étaient, de leur culture. J'ai beaucoup aimé aussi les paysages, on était dans une région plutôt montagneuse de Madagascar, très désertique à la fois. C'était de la caillasse, il n'y avait même pas de route goudronnée pour venir jusqu'au village, donc on vivait très replié sur nous-mêmes, quoi.
Dans un certain dénuement ?
Ah oui, complètement, puisque un village en plus où il n'y avait pas d'eau courante, il y a une rivière qui s'appelle la Béalan qui traverse le village, qui est une rivière pleine, toute orange, vous savez, pleine de latérite. Et là, dans cette rivière, les gens vont laver leur vaisselle, vont se laver, vont laver le linge. Alors nous, à la communauté, on allait chercher, on remplissait des tonneaux d'eau de cette eau de Béalan, mais on avait pour la boire, on avait un filtre, on la laissait aussi pour se laver, on la laissait reposer un peu. Mais à force, on avait la peau aussi qui devenait orange, parce que il y avait quand même toujours un petit peu des molécules de latérite dans l'eau.
Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience après des années, là ?
Je garde justement qu'on peut être pauvre matériellement et riche vraiment de cœur, quoi. Et ça, vraiment, le peuple malgache m'en a donné des témoignages à pratiquement tous les jours, où sans rien, sans un dénuement quand même, ils vivaient dans des cases très 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 rudimentaires. Dès que il y avait un cyclone ou des pluies très fortes, la terre battue se délayait. Enfin bon, il y avait vraiment des conditions matérielles de vie très 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 rudimentaires et en même temps une force aussi pour la vie et de la joie de vivre et d'accueillir l'instant présent. Des familles très nombreuses, avec alors souvent des enfants qui mouraient en bas âge, mais il y avait quelque chose, ils voulaient transmettre la vie, quoi. Il y avait quelque chose de fort. Et Si bien qu'au cours de... Bon, j'ai aussi eu l'occasion pendant l'été, enfin pendant l'hiver de l'Austral, mais l'été pour chez nous, de prendre un peu de vacances pour aller visiter d'autres régions de Madagascar. Et j'y ai trouvé toujours ce bel accueil chaleureux du peuple malgache, quelles que soient les ethnies que j'ai rencontrées et connues. Et vraiment, ils m'ont donné une grande leçon de vie, quoi. Dans la simplicité. Être là pour rencontrer, entrer en relation avec l'autre, mais dans une grande simplicité.
Au fond, c'est toute votre vie, la rencontre, aller vers l'autre que je ne connais pas, qui a une autre culture, qui a d'autres traditions. Alors qu'aujourd'hui, on est dans des espèces de réflexes parfois identitaires, des peurs de l'autre. Oui. Ce qu'on appelle même la xénophobie, la peur de l'étranger, la peur de celui que je ne connais pas. Vous parlez de cela comme si c'était l'épanouissement vrai de l'humain que d'aller vers l'autre qu'on ne connaît pas. C'est tout l'inverse.
Ah, c'est peut-être l'inverse, mais...
Qu'on vit, par rapport à ce qu'on vit actuellement. Ouais.
Je ne le cherche pas, ça m'est donné.
Et c'est toute votre vie, d'ailleurs.
C'est toute ma vie.
Lorsque vous serez au service des œuvres pontificales missionnaires...
Pareil.
Être au secrétariat général de la mission universelle.
Oui.
Ça fait partie, ça, de votre parcours professionnel, mais aussi... Votre parcours de vie.
Mais c'est vrai que mon parcours professionnel et mon parcours, on va dire, personnel et, je dirais, vocationnel, a été en communion, quoi. C'est extraordinaire. C'est là où je vois aussi l'action de la Providence. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des fois des soucis où je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Enfin, mais vraiment, je peux dire avec le recul, s'abandonner à la Providence, c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Il faut arriver à le vivre, hein. C'est peut-être pas donné effectivement à tout le monde, mais j'ai la chance, je crois, d'avoir reçu ce talent. Je pense que c'est un don de Dieu, tout ça. Enfin, je sais pas comment dire d'autre.
Vous parlez de cette rencontre fondatrice avec le peuple de Madagascar. Vous allez aussi beaucoup voyager durant votre vie. Là aussi, le voyage, on peut le faire de façon très touristique.
Ah oui.
On peut passer sur la surface des choses.
Oui.
Voire juste l'écume des choses. Et vous, vos voyages n'ont jamais été de cet ordre-là.
Ah non, parce qu'il me faut communier de l'intérieur avec les gens. Vous voyez, par exemple, à Madagascar, mais comme dans d'autres pays d'Afrique où je suis allée moins longtemps, hein, pour des séjours des fois de simplement 3 semaines ou 5 semaines, j'oublie facilement que je suis blanche. Et je me souviens, justement, à Madagascar, en avril 86, il fallait que j'aille à Tana, donc la capitale, Antananarivo, pour faire des papiers, parce que quelques mois après, je quittais Madagascar. Et je suis arrivée au petit aéroport de Tana. Il y avait tout un groupe de touristes blancs, avec leur bel appareil photo, avec leurs belles chaussures, leurs chemises, leurs chapeaux, enfin, etc. Et moi, je me suis sentie complètement étrangère. Je me suis plus sentie de ce peuple-là. Et moi, j'étais avec, bien sûr, mes chaussures en plastique, comme tous les malgaches, mes pieds nus, bon, d'accord, ma petite chemise peut-être un peu fleurie, ma petite jupe dans un tissu local. Et j'avais oublié que j'étais blanche. Et j'ai réalisé, mince, mais quand dans quelques mois, quand je vais être rentrée en France, comment je vais être? Je vais me sentir étrangère au peuple français. Bon, en fait, non, je n'ai jamais perdu, je vais dire, toute la richesse, tout ce que j'ai accueilli des Malgaches. Mais justement, je dis, ils m'ont donné la chance de savoir ce que c'était qu'être étrangère quelque part. Ça, c'est extraordinaire. Je dis, mais j'aurais pas vécu ces 2 ans, entre 22 et 24 ans, à Madagascar, donc... On va dire au début de ma vie adulte et de ma vie professionnelle. Et je crois que j'ai vraiment beaucoup appris grâce au fait d'être étrangère dans une nation, quoi, vous voyez. Et c'est pour ça, je crois aussi que j'ai un regard particulier sur l'étranger qu'on accueille en France ou des fois qu'on n'accueille pas et bon, voilà, qui nous dérange. C'est vrai que j'ai un autre regard, je suppose, qui est plus un regard peut-être d'amitié, de fraternité pour ce que l'autre est.
Dans votre trajectoire, il y a aussi l'univers des médias.
Oui, c'est vrai.
On l'a dit, hein, on y a fait allusion dans la première partie de cette émission, vous avez fait des études en publicité, en marketing. Mmh. Donc vous aimiez déjà de votre plus jeune âge cet univers médiatique, la pub, le marketing.
Exactement.
Et vous avez été dans votre parcours directrice de radio, directrice d'une radio en particulier à Nancy.
Oui. Hein ?
Bon, on ne va pas raconter le détail du pourquoi et du comment, mais ce que j'aimerais entendre peut-être à ce stade de notre conversation, c'est le regard que vous portez sur cet univers médiatique qui, contrairement à ce que vous nous disiez à l'instant, est superficiel parfois.
C'est vrai.
Passe sur la surface des choses, le marketing, il peut y avoir aussi, et la pub, des choses mirobolantes.
Oui. ce que je peux dire aussi, c'est que des fois, on passe sur des choses superficielles et sur des choses qui vont faire le buzz, comme on dit maintenant.
Oui.
Et ça, c'est vrai que c'est quand même dommage. Et c'est, je veux dire, un bravo que je veux apporter à Radio Présence, à ces médias qui dépendent de diocèses ou d'organismes spirituels, religieux. On cherche à aller un peu plus profond des êtres, quoi. Ou même des événements, lire les événements d'une façon avec un peu plus de recul, de profondeur, pas être forcément dans le sensationnel. Et je crois que c'est très très important. C'est vrai que moi, dans ma vie professionnelle, quand j'étais au niveau de la direction d'une radio, comme vous l'avez dit, ou bien comme attachée de presse, je me suis j'avais tous les supports qu'il fallait pour travailler, quoi. Les supports modernes pour la communication. Et je vais vous dire que maintenant, en fait, dans ma vie personnelle, j'ai un téléphone qui me sert pour téléphoner, un téléphone portable qui me sert que pour téléphoner. J'ai un ordinateur qui me sert pour à la fois faire du traitement de texte, des tableaux et tout ça, mais aussi regarder mes mails. Mais je ne mélange pas tout. J'ai une vie qui me donne la chance de ne pas être, vous voyez, sur plein de réseaux sociaux. Quelque part, je n'y suis pas sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas envie. Parce que je suis arrivée aussi à un moment donné de ma vie où j'ai des lectures, je suis abonnée à La Croix chaque jour, je suis heureuse de pouvoir lire les articles qui viennent par ce journal-là, mais j'ai pas besoin d'aller toujours sur des sites et ceci et cela pour m'informer, quoi. J'ai l'impression que là-dessus, je fais un peu de résistance. J'ai beaucoup de gens qui sont étonnés de pas me trouver sur Facebook. Ah, puis Instagram, toi, t'aimes bien faire des photos, pourquoi tu... Non. Les photos que je prends, je vais les partager par SMS avec mes proches ou comme ça, si j'ai envie de prendre des photos. Mais je n'essaye pas, j'ai besoin en fait d'être un peu en retrait de toute cette vie médiatique, médiatisée, superficielle. Et j'ai la chance de pouvoir vivre un peu en retrait de tout cela. Un beau cadeau.
Merci beaucoup, Anne Deslois. Une autre fois, peut-être que nous pourrons vous faire parler de Lourdes. Vous avez œuvré pendant plusieurs années, vous êtes maintenant installé à Lourdes. Mais on en reste là pour cette fois-ci et c'est déjà beaucoup.
Merci,
vous
Mathias.
Vous nous faites un beau cadeau que de nous offrir tous ces éléments de votre vie et qui peut-être peuvent nous servir à tout un chacun.
Merci.
En termes de réflexion pour nos propres approches face à la vie qui parfois n'est pas facile. Merci, au revoir.
Au revoir.
Présence
de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul. On est libre et l'on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie sans amour, sans soucis, sans on est triste et l'on traîne. Alors pense que moi je t'aime.
Et
quand tu auras compris. Éveille-toi, je serai là pour toi.
C'est ça la belle vie.
Radio Présence dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le monde de la santé confronté à de nombreux défis, le pape tente d'y apporter sa contribution. Il recevait ce matin les partenaires.